Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Bac FM. Alors je suis ravi de vous retrouver comme chaque mercredi afin de pouvoir survoler notre actualité bien sûr culturelle, artistique, de tout ce qui vous reste encore à découvrir d'ici cette fin de saison. La prochaine saison, en tout cas la présentation arrive à grands pas puisque vous le savez, le mardi 30 mai à 19h30 nous présenterons tout ce qui va vous tenir en haleine jusqu'au mois de juillet 2024. Mais avant cela encore, donc je vous l'ai dit, pas mal de belles choses. Ce matin, on va aborder notamment les propositions restantes, mais également aussi aborder quelque chose qui nous donne pas mal de belles surprises, en tout cas de belles découvertes, notamment avec la présence aujourd'hui dans nos studios de Mathieu Desbordes. Bonjour Mathieu.
Bonjour Gaëtan.
Ça va bien ?
Ça va très bien, merci.
Bon, écoute, voilà, on est ravis de t'accueillir parce que on avait pu notamment découvrir le spectacle Ravi au mois de mars et on avait accueilli d'ailleurs dans ses studios Pauline Bourse, la metteuse en scène du spectacle. On avait évoqué, voilà, justement ce qui nous rapproche aujourd'hui, ce qui nous fait te rendre visite finalement ici, ce sont ces ateliers de pratique musicale qu'on a déjà commencé à aborder depuis hier et sur lesquels on va revenir, mais aussi un petit peu tout ce qui concerne ta carrière professionnelle et puis tout ce qui t'enchante au quotidien. On va savoir un petit peu plus sur toi, mais avant cela, je voulais revenir bien sûr sur les temps forts de cette semaine, ceux qui restent encore, on va dire, à l'affiche, notamment avec dès ce soir, et Mathieu d'ailleurs sera présent pour y assister, la conférence Ornitho-Perché, parce que c'est un spectacle qui est très musical, basé, vous l'avez compris, de cette compagnie particulière qui s'appelle Les Chanteurs d'Oiseaux, basé notamment sur ses imitations et sur cette faculté à pouvoir imiter notamment tous les volatiles, quels qu'ils soient, aussi grands que petits, et notamment pour faire ce parallèle, comme je vous l'ai expliqué, entre la société des oiseaux et celle des humains, et on va dire la complexité de chacune d'entre elles notamment est assez étonnante à découvrir et les parallèles se font assez facilement. Alors on est en liste d'attente malgré tout, si vous le souhaitez, essayez quand même de nous contacter pour savoir s'il ne resterait pas une place pour vous. C'est au théâtre municipal et c'est à 20h. Un spectacle pour lequel il reste des places par contre, pas énormément, mais il en reste encore quelques-unes, c'est La Longue Route, un spectacle notamment sur la vie de Bernard Moitessier, un navigateur écrivain qui n'est plus de ce monde, mais qui a laissé une empreinte assez incroyable, notamment sur la course autour du monde à la voile, puisqu'il avait participé, je vous le rappelle, à la première Golden Globe en 68. Il y avait participé, il était en tête, mais il avait souhaité ne pas gagner cette course. Finalement, il s'était arrêté en chemin et avait choisi une autre vie, qui était celle de gagner une course internationale, en tout cas autour du monde. Et il va raconter, en tout cas, l'artiste qui l'incarne, bien sûr, il s'agit de José Antonio Pereira, va incarner ce personnage assez fort, assez caractériel, assez torturé aussi, et qui a trouvé dans la littérature et l'écriture notamment un moyen justement de s'évader de ce quotidien des fois un petit peu pesant. L'évasion par le voyage, mais aussi par l'écriture. Et c'est un spectacle vraiment à ne pas manquer, hein, si vous aimez, on va dire, peut-être la course sportive et puis aussi le voyage. C'est demain soir à 20h dans la petite salle. Et là, il reste encore quelques places, donc vous pouvez vraiment vous dépêcher. Voilà, ça c'était l'actualité qui nous concerne, qui vous concerne vraiment très proche de nous. Mais l'actualité aussi de cette semaine, c'est donc en lien avec la venue de Mathieu dans ses studios. Alors avant d'aborder tout cela, je vous propose d'écouter, de faire une première pause musicale avec un extrait que Mathieu a souhaité nous faire découvrir. You may be my lucky star. You may be my lucky star. You may be my lucky star. Cause you make the darkness seem so far. And when I'm lost, you be my guide. I just think of you and you're by my side. Sunlight, starlight, we start to see the night. Starlight, starlight, get everything alright. Starlight, starlight, we start to see the night. Starlight, starlight, yeah. We'll be right back. Voilà Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors je sais pas si vous, auditeurs, auditrices, vous avez reconnu ce titre. Je pense que oui, certainement, si votre culture musicale est quand même un petit peu pointue, vous avez bien sûr reconnu l'interprète, en tout cas l'artiste de base. Qu'est-ce que c'est que cet extrait, Mathieu? Qu'est-ce que tu nous proposes?
C'est un petit extrait qui présente un duo assez neuf qui s'appelle le Bal Madonna et qui a été conçu pour aller avec une pièce de théâtre. Et le Covid étant passé par là, cette petite forme musicale qui va avec cette pièce a aussi eu sa propre vie autonome et est devenue un concert qu'on joue avec mon compagnon Mathieu Nolo qui est pianiste. Et donc c'est un duo, on est deux et on revisite une vingtaine de chansons de Madonna avec bonheur. On essaye de faire ça avec beaucoup d'interprétation, c'est-à-dire on sait pas exactement comment on va interpréter les morceaux quand on les joue, mais on sait à peu près ce qu'on joue puisqu'on les connaît bien et qu'on se connaît bien, et voilà, le concert suit un peu sa propre route, chaque fois différente.
Alors c'est quelque chose qui va être produit sous forme digitale?
Comment? Alors sous forme digitale je pense pas, parce que c'est assez compliqué d'utiliser des morceaux d'autres artistes quand il s'agit d'en faire des objets qui sortent dans le commerce. Pour l'instant c'est une forme concert qui va jouer à Avignon cet été, à l'île de Ré, qui va jouer aussi à la Guinguette de Tours. Voilà, il y a quelques rendez-vous comme ça qui sont aussi des prétextes à rencontrer des artistes dans chaque endroit où on passe d'ailleurs. Et voilà, ça suit cette forme-là pour le moment.
Très bien, donc à suivre, un projet à suivre.
Tout à fait.
Voilà. Mathieu, pour recentrer le sujet, bien sûr, donc comme je le disais, tu as eu l'occasion avec la compagnie Mumus Band au mois de mars de venir jouer le spectacle Ravi, spectacle tout public, jeune public, mais on va dire famille, je trouve, au théâtre municipal avec 5 représentations. Et puis c'est vrai que dans le cadre du dispositif TA qui a lieu chaque année, un dispositif national dans lequel, bien sûr, la Nièvre s'engage par le biais de l'OCCE, et notamment Muriel que je salue. On a en l'occurrence défini aussi un prolongement musical de ces ateliers de théâtre, puisqu'il s'agit d'ateliers de théâtre que les enfants, que les élèves de 6 classes de la Nièvre notamment, de Nevers et de l'agglomération en grande majorité cette année, ont choisi notamment de travailler sur des textes de Sandrine Roche, puisque Sandrine Roche était l'autrice notamment de ce spectacle Ravi de Mobius Band. Donc on a imaginé, avec la compagnie notamment avec toi, comment prolonger le théâtre par le biais de la musique et des percussions en particulier, puisque toi tu es à la base percussionniste, batteur. C'est ton fond de commerce principal ou est-ce que tu touches un petit peu à tout?
C'est mon fond de commerce, tout à fait. J'aime bien partir du rythme de la batterie. Alors la pratique de la batterie, c'est vraiment ce qui m'occupe le plus, l'expression par cet instrument-là. Mmh. Et assez tôt dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des comédiens, en particulier Émilie Beauvais, qui avait fait la comédie de Saint-Étienne. Et en fait, on a beaucoup joué ensemble dans plusieurs compagnies. Et au fur et à mesure, ça m'a fait découvrir une toute autre place, parce que j'ai souvent eu la place du batteur, en faisant de la musique improvisée, mais pas que, du blues, de la variété, du jazz, beaucoup. Et dans le théâtre, c'était complètement différent, parce que je me suis retrouvé souvent seul musicien, à devoir comprendre les intentions dramaturgiques, les amplitudes du jeu, le fond du sens de chaque pièce, et m'inscrire là-dedans de plein de façons. C'était vraiment autant un travail de régie qu'un travail d'accompagnateur, que d'un travail de performeur. Il y avait avec du piano, de la guitare, des fabrications de sons, un peu de batterie. C'était très riche et très large.
On a pu le voir dans Ravi, de toute façon, qu'il n'y a dans pas Ravi, que la batterie. Hein, il y a d'autres choses
que tu manipules. Du chant, de la guitare, des effets, du synthé, exactement, oui.
Dans ta formation professionnelle, est-ce que du coup, toi, tu as abordé ces instruments-là ou le chant par le biais de tu t'es formé là-dessus, ou est-ce que tu l'as fait un peu sur le tas? Parce que bien souvent, il y a des artistes, des musiciens qui ont un instrument de prédilection, puis après qui commencent à toucher un petit peu à tout.
Franchement, c'est tout à fait mon cas. En fait, moi, en batterie, j'ai vraiment fait des choses, des écoles. J'ai rencontré un prof merveilleux tôt. Donc en fait, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier sur qu'est-ce que c'est qu'être un batteur de façon professionnelle, travailler la méthode, son langage, etc. Et en faisant ça, j'ai rencontré plein de musiciens, parce que depuis que j'ai 19 ans, je fais que de la musique de plein de manières différentes, mais que de la musique. Donc j'ai rencontré beaucoup de musiciens. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir faire du piano, c'était très facile de me dire, tiens, je vais m'adresser à Cédric Pyromali, qui m'a montré les 2-5-1, ça a pris une heure. Et puis après, je jouais avec plein de gens, donc je pouvais toujours voilà, d'avoir des questions. Mais pour le chant, pareil, quand j'ai commencé à chanter dans des pièces ou des choses comme ça, que j'avais des questions à poser, je savais à qui m'adresser. Et après, le travail de la musique, c'est comme tous les travaux, c'est uniquement du temps et de la motivation. Donc voilà, j'ai une petite idée de ce que ça demande comme temps. Voilà, pour le truc de Madonna particulièrement, ça m'a pris énormément de temps de faire de la batterie façon façon ouais, États-Unis années 90 et le chant en même temps. C'était tout un parcours de corps. Et dans Ravi, c'est pareil. La guitare, ça m'a pris du temps parce que je suis pas forcément très très bon guitariste, mais j'aime bien faire de la guitare. Après, dans la pièce, il fallait que je sois un peu armé,
multi-instrumentiste,
pour pouvoir avec la guitare conduire musicalement ce qui se passait sur le plateau. Oui.
Ravi, c'était ta première expérience sur un plateau de théâtre en tant que musicien ou pas?
Non, la première, elle était en 2006.
D'accord.
Donc c'était il y a 18 ans. Ah oui. Non, 16 ans. C'était il y a 16 ans. Mm-hmm. Et c'était la deuxième avec Pauline, la metteuse en scène, avec la compagnie Mobius Band. C'était la deuxième fois qu'on travaillait ensemble. On avait fait, il y a 5-6 ans, Mon frère, ma princesse. Un texte de Catherine Zambon, qui était un jeune public, qui était dans une forme musicale autre, où c'était plus pop que rock, et qui avait beaucoup fonctionné, beaucoup tourné, qui nous a beaucoup nourris chacun dans nos parcours de metteur en scène, comédien, musicien, voilà.
C'est par le biais d'Émilie que vous êtes rencontré avec Pauline, comment ça s'est passé?
Alors avec Pauline, c'est particulier, on travaillait avec Bruno Gélin, avec Émilie, au théâtre de La Bastille en 2008, ouais. Et Pauline est venue rencontrer l'équipe dans ce cadre-là. Plus tard, quelques années après, Pauline est venue s'installer à Tours et elle a re-rencontré des gens, dont Émilie. Et en fait, voilà, c'est devenu une amie. Voilà. Et quand est arrivé un moment, l'idée de travailler ensemble s'est posée de façon assez naturelle. J'avais déjà remplacé dans une de ses pièces aussi. Enfin, voilà, c'est un compagnonnage de longue date.
La place de ta place dans la compagnie, est-ce qu'elle est, on va dire, inspiratrice ou elle est plutôt d'interprète? Est-ce que tu apportes, on va dire, ta pierre à l'édifice ou est-ce que tu suis un peu les instructions? Est-ce que tu vois un peu ma question? Comment ça se passe pour toi? Parce que c'est vrai que, moi, du coup, tu n'es pas, à proprement parler, comédien, donc musicien, même si, bien sûr, tu joues la comédie par le biais de tes instruments. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu... de quelle manière tu interviens, justement, dans le processus de création? Quel est vraiment ton rôle, à proprement parler?
Eh bien, en fait, il est assez libre, parce que, déjà, c'est la manière de travailler de Pauline. Elle laisse vraiment de la place aux interprètes, et ensuite, elle donne un regard, et elle digère, en quelque sorte, ce qui a été proposé pour en visualiser un ensemble. Donc au moment où on crée, on est deux comédiennes, moi, Pauline en face, et on a devant nous 3, 4, 5 semaines pour vraiment mettre à plat des idées qu'on pourrait avoir, des pistes, des intuitions, et ensuite c'est vraiment à l'épreuve du plateau, c'est-à-dire que... par exemple, là on fait un jeune public, franchement on peut pas dépasser 1h10, ouais. Sinon les enfants peuvent pas rentrer à l'heure pour prendre le bus, donc le temps de la lecture va déjà donner une indication assez forte sur la place de la musique en tant que telle. Donc il y en a un peu, c'est des intermorceaux qui donnent une couleur comme ça dans l'arrivée de ces chèvres qui sont fantasmées, qui sont des fantômes de chèvres qui viennent donner cette fonction d'apprentissage à cette petite chèvre blanquette qui va aller vers la liberté après. Donc il y a ces intermorceaux qui prennent plusieurs fois une minute, puis il y a ce grand parcours final qui accompagne Blanquette vers le chemin de la liberté où elle s'évade de chez Seguin, où là en fait j'ai fait des choix de son, j'ai fait des choix de tempo, en fait c'est des choix que j'adore faire moi quand on fait une pièce de théâtre, c'est-à-dire est-ce que c'est haletant, est-ce que c'est posé, voilà, ça c'est des grandes questions qui vont donner un tempo, est-ce que le son il va être profond, il va donner un espace large ou est-ce qu'il va être plutôt à portée de main, dans la salle, petit, quotidien, donc ça va me faire choisir des choses. Là on parlait d'une quête de liberté dans une montagne, donc c'est vrai qu'au moment où Blanquette elle part, il y a des sons assez larges, avec des réverbes, des voix réverbérées qui donnent vraiment de la charge. Voilà comment je fais mes choix pour cette pièce là en particulier.
Bien sûr. Est-ce que là, sur le, on va dire entre le début de la création et puis le moment final, on va dire lorsque c'est créé, est-ce que ça ressemble un peu à ce que tu as imaginé ou est-ce qu'on est vraiment toujours sujet à improviser par rapport à ce qui se passe, ou est-ce que c'est assez fidèle à ce qu'on avait mis comme plan de départ?
Je crois pas, parce que le plan de départ il était large, il était volontairement un peu flou, et en fait moi c'est aussi un endroit où je me fais souvent avoir et en même temps que j'aime bien, c'est-à-dire que souvent j'ai l'impression que je ne sais rien quand je commence une pièce de théâtre en particulier. Quand je suis à la batterie, j'ai l'impression que je sais vachement ce que j'en pense, ce que je sens dans mon corps ou des choses comme ça, et puis c'est dans des cadres de musique. Dans la pièce de théâtre, c'est vraiment différent, parce que la musique, elle n'est pas du tout au premier plan. Le texte, il raconte déjà quelque chose avec une forme, et dans certains cas, quand l'interrogation sur la langue elle-même, sur elle est forte, sur le son, sur l'aspect sonore, il y a des ponts qui vont se faire plus d'égal à égal. Là, dans ce cadre-là, c'était moins le cas. C'est-à-dire que la pièce, elle raconte déjà quelque chose que moi, je viens de jouer ou pas. Donc, il y avait des idées comme ça de tambour par rapport à la chèvre. Il y avait des idées de guitare par rapport à cette montagne, cette cabane. Et puis, voilà, après, il y avait le synthé, parce que c'est ce qui m'inspirait une chose irréelle, une aspiration comme ça qui pouvait décoller. Après, ça a vraiment suivi un chemin qui est venu se cogner à l'épreuve du plateau. Ouais. Donc, je ne savais pas très bien au moment où on a commencé à quoi ça allait ressembler.
C'est peut-être à la sensation, à l'émotion aussi que tu fonctionnes, parce que c'est vrai qu'on a pu le découvrir pour faire le lien justement avec ta venue aussi ce matin par rapport à ces ateliers. C'est un petit peu les mots d'ordre que tu donnes, hein, j'ai l'impression, aux élèves, c'est-à-dire de savoir comment finalement transposer leurs émotions par le biais de la musique, parce que bon, la musique c'est aussi ça, les instruments c'est aussi ça, c'est transposer ce qu'on a à l'intérieur de soi par le biais de ces instruments. J'ai l'impression que toi c'est un petit peu ton mot d'ordre, fonctionner par rapport aux couleurs, aux émotions, aux sensations, c'est-à-dire à quelque chose que finalement qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Comment tu le sens, toi ?
Ben, par exemple, par rapport à ces ateliers qu'on fait depuis hier, là, on a rencontré des élèves de l'école primaire et des collégiens tout à l'heure. Je leur montre un petit peu les sons, les choses comme ça. Mais moi, pour moi, toute la gamme de la sensation et de l'émotion, déjà, c'est aussi la façon dont travaille Pauline. Donc, par rapport à ce qu'ils ont vu de Ravi, c'est pour moi assez évident d'inviter cette lecture-là, parce que je sais que c'est cohérent par rapport au travail de Pauline. En même temps, c'est tout à fait le mien, c'est sûr, parce que c'est aussi une première façon de s'éloigner d'une chose purement intellectuelle. C'est-à-dire qu'on peut faire des choix en disant, voilà, raisonnablement, je pense que c'est une bonne idée de faire comme ci ou comme ça. Après, on s'en fout de ça, sincèrement. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on a besoin de raconter, c'est un temps où on se dépose ? Est-ce qu'on a envie de donner toute l'énergie ? Est-ce que cet instrument-là, il me raconte une chose énervante ? Est-ce qu'il me raconte une chose large ? Est-ce qu'il me raconte... voilà, qu'est-ce qu'il me dit, en fait, cet instrument en termes d'émotions et de sensations. Donc c'est vrai que j'y reviens souvent avec les élèves, parce que j'aime bien faire comme une espèce de, comme on dit, un ensemble de mots avec peur. Alors hier, il y avait effroi,
oui, c'était
horreur, il y avait des trucs énormes. Ouais. Donc après, quand on se dit, tiens, comment on va chercher à exprimer quelque chose par l'instrument, on peut se dire, tiens, tout à l'heure, tu parlais de l'horreur et de la peur, est-ce qu'avec cet instrument-là, on pourrait aller chercher ça, puis aller vers quelque chose après d'autres. Et puis je me laisse un peu naviguer à vue avec leurs propositions, et c'est encore une fois, ce qui est important, c'est que c'est une manière de sortir d'une chose purement intellectuelle. C'est ça qui est important pour moi, que ce soit avec les enfants ou avec mes copains musiciens ou pour moi tout seul.
Bah c'est vrai que de toute façon, l'apprentissage musical, c'est vrai qu'il est assez didactique quand on apprend un instrument à l'école de musique, mais c'est peut-être aussi un message qu'on peut passer par le biais notamment de cette émission, c'est que la musique aussi permet finalement d'imager ce qu'on a à l'intérieur de soi grâce à ces instruments. C'est vrai que on le dit souvent, il faut absolument pratiquer il faudrait pratiquer une activité musicale, parce que c'est vrai que c'est ce qui éveille les sens, et on le voit d'ailleurs que notamment lorsqu'il y a des activités musicales au sein de classe ou d'établissements scolaires, les résultats déjà sont meilleurs. Il y a un regard différent des enfants, et c'est vrai que on peut le voir même sur l'espace de 2 heures qui sont le temps des ateliers là que tu proposes là, on voit déjà un écart assez incroyable lorsqu'ils arrivent, et puis enfin entre le moment où ils arrivent et puis le moment où ils repartent. C'est vrai qu'il y a un regard assez, nous on le voit de l'extérieur aussi en tant que professionnel, mais assez incroyable. Comment tu le vois, toi, comment tu le perçois?
Ben moi, j'ai des enfants qui ont 10 et 13 ans, donc déjà à travers leur regard et l'expérience qu'on a eue de leur passage dans la scolarité, et ma propre expérience aussi d'élève, je crois simplement que là, on leur propose quelque chose qui les sort un peu de l'ordinaire. C'est un peu ça qui est l'élément clé. Après, Après, là, voilà, tout à l'heure, il s'est passé des choses très belles avec des qualités d'écoute, tout simplement. C'est ça, en fait, je trouve, qui est fort. C'est-à-dire que là, ils ont un espace. Moi, je leur ai dit plusieurs fois tout à l'heure, par exemple, j'aime bien dire ça. Quand ils me demandent un truc, je leur dis, bah, il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise réponse, en fait. C'est toi qui choisis, c'est que des choix, en fait. Et oser les faire, oser les accomplir. Moi, je peux juste encourager quelque chose. Il y a un jeune élève tout à l'heure qui faisait de la flûte, c'était très beau. On a réécouté ce qu'on a fait et je suis allé juste lui dire, quand on fera la flûte, profites-en. Prends ton temps, profite. Et en fait, quand, la deuxième fois, le deuxième parcours, il a choisi de faire de la flûte, et ben, il a eu un vrai temps. Puis comme on s'était dit ces quelques mots-là, j'ai rien besoin de dire de plus. C'est lui qui sait, il sait qu'il a le droit d'en profiter. Il est légitime à cet endroit-là et ça change leur place par rapport à leur quotidien scolaire. Exactement. Il y a eu des choses très belles. Hein, tout à l'heure, les derniers sons à la flûte d'un gamin qui était vraiment plein d'énergie. Et là, il y a eu des qualités d'écoute qui étaient très belles. Il y a eu cette jeune élève qui a organisé, qui avait des idées pour organiser le parcours. Moi, j'ai juste besoin de rebondir. J'essaye de proposer, en fait, des portes d'entrée. Mm-hmm. Alors, ça marche plus ou moins.
Bien sûr.
Mais quand il y en a une, c'est il faut que je sois au rendez-vous pour m'en saisir. Encore une fois, il faut que je ne sache pas. Il faut que je dise oui, dis-moi ce que tu penses et on va essayer de le faire.
On a finalement l'impression que ça fait comme une société lorsqu'on a pratique de ce genre d'atelier, parce qu'il y a l'écoute, il y a l'attention, il y a aussi l'esprit critique, il y a les propositions. Et c'est vrai que finalement, c'est un peu une parallèle de ce qu'il faudrait qu'il soit plus tard dans la société. Et c'est vrai, mais voilà, toutes ces pratiques, toutes ces choses à faire, que ce soit du sport, de la musique, etc. C'est vrai qu'on le dit souvent, il faut absolument pouvoir le proposer dès le plus jeune âge. La preuve en est, c'est que ça fonctionne et même sur un temps aussi court, on s'aperçoit de progrès assez considérable. On l'évoque d'ailleurs avec les enseignants qui les accompagnent et on a des retours qui sont assez intéressants. Les ateliers vont se passer en deux parties, on aura une deuxième partie au mois de juin. Là, on est sur une base un peu fondatrice, notamment avec, puisque tu enregistres finalement tout ce qu'ils réalisent, il y a une sorte d'enregistrement, de mise à plat de tous ces sons qui seront enjolivés par un travail qu'ils réaliseront ensuite au mois de juin.
Exactement, mais alors pour le coup je sais pas encore teneur de ce travail au mois de juin. Je me permettrai de rebondir sur les suggestions des enseignants par exemple, parce que là entre les ateliers d'hier et aujourd'hui, à chaque fois ce que je vais pouvoir leur fournir comme bande son qu'on a fait ensemble, c'est vraiment pas du tout la même chose à chaque fois.
Tout à fait, et je pense que ils ont peut-être besoin un petit peu de digérer, que ce soit l'enseignant et les élèves, de comprendre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont vécu, et puis on aura je pense une avancée sur le prochain rendez-vous. En tout cas, pour nous ça fait partie des choses extrêmement importantes. C'est pour ça qu'on en parle aussi, on essaie d'en parler le plus possible. C'est ce qu'on appelle les choses invisibles finalement de l'activité d'une maison comme la nôtre. C'est-à-dire qu'on voit les spectacles, on voit les représentations, mais il se passe beaucoup de choses derrière. Et vous le savez, l'action culturelle, les EAC comme on les appelle, font partie intégrante notamment de notre projet artistique, puisqu'on est aussi financé pour ça. Et c'est par exemple grâce notamment à la DRAC Bourgogne-Franche-Comté qu'on peut faire réaliser ces ateliers. Et c'est une entrée tout à fait différente que l'avenue au spectacle, donc là c'est tout à fait complémentaire parce que ça rentre en plus dans le cadre d'un dispositif. Voilà, donc ça fait partie, chers auditeurs et chères auditrices, en effet de tout ce qu'on ne voit peut-être pas mais qui fait partie vraiment du maillage très important qui se fait dès le plus jeune âge. Donc c'est vraiment, en tout cas pour nous, c'est vraiment toujours des moments assez forts, assez intéressants, pas évident à organiser. C'est pas toujours simple, surtout quand on a des petits soucis, puisque ça devait être juste après le spectacle au mois de mars, ça devait être un petit peu reporté, mais en l'occurrence le résultat est plutôt chouette. Toi, t'as été prof d'ailleurs, je crois, de musique.
J'ai été prof pendant 16 ans, j'ai été prof assez tôt dans mon parcours, ce qui était à la fois super et en même temps c'était tôt, mais c'était une grande chance. J'ai pu essayer beaucoup de j'étais très libre, je faisais du rythme, voilà.
Ça facilite un peu les choses peut-être aussi pour intervenir auprès d'élèves en plus qui ne sont pas musiciens à la base, parce que là le challenge est double, c'est de partir sur un projet et la quasiment totalité des élèves ne pratiquent pas la musique. C'est peut-être plus simple pour l'aborder ?
C'est peut-être, oui, mais c'est surtout que là, en fait, je suis vraiment dans un cadre très privilégié. C'est-à-dire, toi, tu m'accueilles, tu as tout organisé, tu as déjà un lien avec les écoles, donc moi, j'ai plus qu'à passer du bon temps, finalement, avec eux. Et ce qui est pratique, c'est de pouvoir vraiment toucher du doigt, tu parlais de leur place dans la société tout à l'heure, cet endroit où j'ai l'impression qu'il y a, Il y a un mouvement binaire des fois quand on peut regarder entre une place dans la société où on réalise une tâche finalement qui doit être réalisée, qui pourrait être réalisée par d'autres personnes, bon c'est nous mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, et puis il y a des endroits où en fait c'est nous qui choisissons de faire nos choix, et en fait là on se retrouve dans un cadre quand ils choisissent de prendre telle percussion, d'organiser de telle manière, de suggérer à leurs copains de faire comme ci ou comme ça et de s'écouter le faire, on est dans des cadres où ils ont la place en fait de faire leur propre choix, et c'est ça en fait moi qui me touche en venant ici faire ces quelques heures avec eux et en revenant ensuite en juin, qui est un peu différent du travail du professeur sur l'année qui doit organiser vraiment un parcours pédagogique qui est tout autre.
Tu as également d'autres activités, parce que c'est vrai que là, cette activité, en tout cas, elle est bien expliquée là dans ces studios. Mais voilà, quels sont tes autres Est-ce que tu te limites à un style? Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Est-ce que
Oui, j'ai en fait, principalement en ce moment, je fais partie d'un collectif de musiciens à Tours qui s'appelle le Capsule Collectif, qui a aussi une grande part de son activité dans ces interventions là pour des gens qui ont un accès à la musique qui n'est pas celui des institutions principales. C'est un super collectif avec une 25aine de, je sais pas si ça se dit, de musiciens et environ 13 groupes. Donc là c'est autour du jazz et des musiques actuelles, c'est vraiment très réactif d'être là-dedans, j'ai beaucoup de chance, et j'ai aussi ma propre compagnie avec Émilie Beauvais justement, compagnie de théâtre où je suis à la fois musicien, comédien, et où je fais aussi des spectacles à destination de public amateur en tant que metteur en scène avec une petite équipe de gens. Donc là c'est pareil, on a des spectacles qui tournent, d'autres qui sont en cours de création.
Voilà, ça s'appelle comment cette compagnie?
Elle s'appelle Supernova.
D'accord, Supernova.
Avec un E à la fin,
avec
Supernova.
Supernova.
À Tours.
À Tours, voilà. Bah oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, bien sûr, mais cette compagnie, en effet, est basée dans la région centre. C'est vrai, la proximité de la région centre, pour nous, elle est assez évidente. Et c'est vrai qu'on en reparlera pour la saison prochaine, mais il y aura également, avec la région centre, une autre compagnie de la région centre, pas mal de choses qui se mettront en place sur la fin de la saison. On aura bien sûr le temps d'en reparler, en lien d'ailleurs avec la musique. Pour faire une petite pause et te remercier notamment de ta venue, parce qu'on a pu évoquer tous ces sujets, peut-être aussi du coup parler du Magnétique Ensemble dont tu as fait partie. C'est un projet qui aujourd'hui n'existe plus, mais en tout cas qui a permis de produire un certain nombre d'albums, si je ne me trompe pas. Cette expérience, c'est pareil, c'est un bon souvenir
C'est un très bon souvenir, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré Antonin Lemary qui s'occupe de ce groupe-là, qui est batteur, par hasard dans un festival où on joue en commun. Voilà, c'était un ensemble de choses, de remplacements, j'ai pu participer à la vie de ce groupe pendant 3 ans. J'ai rencontré d'ailleurs Benjamin Flamand, qui est un musicien exceptionnel de chez vous.
Bah exactement,
percussionniste
très connu
aussi, j'imagine. Ouais. Et en fait, voilà, j'ai aussi rencontré beaucoup d'autres musiciens par cet intermédiaire-là, entre autres le fameux Mathieu Nolo qui m'accompagne dans le projet Madonna, qui est un compagnon aussi très très important en ce moment pour moi depuis quelques années, qui est comme un frère musical avec lequel je n'hésite pas à aller dans n'importe quel territoire artistique. Et la rencontre avec Antonin, elle a été très forte aussi rythmiquement, parce que c'est vraiment un homme du rythme qui a un super solo d'ailleurs qui s'appelle Hyperactive Leslie en ce moment, qui est un solo de techno à la batterie. Donc d'accord. On se revoit régulièrement pour faire des sessions et voilà, j'ai adoré faire partie de ce groupe là et ça s'est terminé par un album, puis par le Covid qui nous a quand même un peu mis sur l'étape suivante, sans qu'on le veuille vraiment, mais c'était assez franc. Et voilà, donc c'était une belle histoire, et puis ça s'est terminé il y a 2 ans, je crois.
C'est ça. Eh bien écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout cela. Avant de revenir sur la fin de l'actualité, on va justement faire une pause avec le Magnétique Ensemble et ce titre qui s'intitule Satire of Saturn.
Merci. Thank you.
Ich wollte es nur schwarz auf weiß. Doch du sagtest, ich weiß es nicht.
Dernière partie de notre émission. Alors, on vient d'écouter un extrait, notamment une partie de Satire of Saturn, de Magnetic Ensemble, dont Mathieu Desbordes faisait partie. On évoquait donc pas mal de choses ce matin. Avant de terminer, notamment cette émission, un petit retour notamment sur ce qui va arriver par la suite avec dès le mercredi 10 mai à 18h dans la petite salle, le spectacle de la compagnie Les Andeaux Rêveurs dans les Pas du Vent. On est en liste d'attente où il y a encore quelques places, mais il faut vraiment vous dépêcher pour ce spectacle qui va allier notamment la danse, la vidéo et le théâtre d'objets. C'est un spectacle famille, d'où cet horaire de 18h. Une très très belle proposition à vraiment réaliser par Serge Ambert, avec une interprète au plateau, mais entourée de pas mal de choses qui vous en est dans la thématique de l'exil. C'est un très très beau message d'espoir, en tout cas, qui est prodigué grâce à ce spectacle à partir de 5 ans. Nous aurons également de la danse en grande salle le lendemain à 20h avec la compagnie Advaita, l'équilibre de la bicyclette, Sarath Amarasingham, le directeur artistique et chorégraphe de cette compagnie, danse avec deux autres danseurs, un percussionniste, alors multi-instrumentiste. Je pense que Mathieu, c'est un batteur, en tout cas un musicien que tu apprécierais notamment sur scène, parce qu'il a une présence là pour le coup extrêmement forte. Il intervient, il est au premier plan de la scène dans le coin côté jardin, sur la face jardin, et c'est vrai qu'il donne finalement le rythme, le tempo de ce spectacle. C'est assez étonnant à découvrir, et tout cela autour, bien sûr, de Ganesh et de la tradition, notamment de la culture aussi de Sarat, qui est hindou d'origine. Donc c'est un spectacle à découvrir le jeudi 11 mai dans la grande salle. Vous le savez également, nos expositions liées avec le dispositif Éclat auront lieu pour une part à la maison, donc vernissage le 11 mai à 18h30 dans le hall. L'exposition est en train de se mettre en place, hein. Les gravures sont en train de fleurir comme les fleurs en ce moment un petit peu partout dans la nature dans le hall de la maison de la culture, et vous le savez, donc jusqu'au 13 juillet, et ensuite il y aura donc aussi une partie de l'exposition du 9 juin au 18 septembre au musée du Grès à Saint-Amand en Puisaye. Le vernissage le 9 juin. Et pour terminer, enfin, les visites théâtralisées, donc je vous le rappelle, encore quelques places, mais là, il faut vraiment vous dépêcher, je crois qu'il n'en reste quasiment plus, 14h et 16h30 pour cette saison, les dernières représentations. Rendez-vous dans le hall de la maison, contactez-nous s'il vous plaît, 03 86 93 2x09 pour savoir s'il reste encore des places pour vous. Voilà, on a fait, je crois, le tour d'horizon de tout ce qu'il nous reste encore à découvrir, et puis pour se quitter, avant de laisser la parole à Mathieu, parce qu'il a un petit message particulier à donner, je crois, tout à l'heure, il m'en a parlé. On a en l'occurrence l'occasion de découvrir un artiste stand-up, Mehdi Emmanuel Djadi, donc il viendra pour le spectacle Coming Out notamment. Ce sera le 16 mai, donc là il reste encore quelques places, et c'est avec un extrait de ce spectacle que l'on va se quitter. Alors Mathieu, je crois qu'il y avait un message particulier à passer.
Oui, tout à fait, je voulais vraiment communiquer une pensée appuyée, importante, généreuse et affectueuse à Suzanne d'une part, qui est arrivée, et Elios d'autre part, qui est arrivé lui aussi et qui compte beaucoup dans mon parcours.
Voilà, sur ces paroles, on va vous souhaiter à toutes et à tous, et merci Mathieu d'être venu.
Merci beaucoup Gaëtan.
Une excellente journée, merci à l'équipe de Bac FM. Et puis je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Soyez curieux, sortez et allez au spectacle. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Quand je rentre à Lausanne, je pousse la porte d'une église, je vais voir un prêtre, et là le prêtre me dit « Est-ce que vous êtes sûr de votre démarche ?» Parce que l'islam, c'est bien aussi. C'est confortable. Puis pendant le ramadan, on mange bien. Avec les petits macroutes, les cornes de gazelle. Alors ça vaut pas une meringue double crème de gruyère, mais c'est quand même monstre bon. Et puis, si vous devenez catholique, vous allez vous attirer des ennuis. Et puis à nous aussi. Et vous savez, catholiques, juifs, protestants, musulmans, tout ça c'est la même chose, hein? Chacun chez soi, et puis les moutons sont bien gardés, hein? Et puis entre nous, l'hostie, ça n'a pas de goût. Aussi loin que je me souvienne, enfant, j'ai toujours cru en Allah. Et comme en écrivant ce spectacle, j'avais pas ultra envie d'avoir une fatwa sur le dos, et qu'avec un titre comme Coming Out, j'ai peut-être plus de chances d'avoir des subventions d'État, faire un choix. Jésus, et ça, c'est un prophète. Il a été envoyé par Dieu. Vous, les chrétiens, là, vous vous êtes égarés, vous avez commencé à l'adorer. Heureusement que le prophète Mohammed, alayhi salat wa salam, il est venu vous dire que vous vous étiez égarés. Point. Point. Point virgule.
Très beau spectacle, très sincère, vraiment extraordinaire.
Si vous devenez catholique, vous allez vous attirer des ennuis.
Mehdi a réussi le petit miracle de rassembler des gens différents.
J'ai adoré. J'ai trouvé que c'est un spectacle sur la tolérance, c'est intelligent, c'est subtil. Lui, il est très sympathique, on a envie de l'aimer.
Ils ont dit oui. J'ai dit Alhamdoulilah. Je suis un fils de France. Citoyen, catholique, pêcheur, qui ne regrette rien de son passé, qui ne renie rien de ce qu'il a reçu de beau dans l'islam, et qui aujourd'hui profite de la liberté d'expression pour raconter son histoire.